Raconte-nous de quoi ça va en être aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on va évoquer une première figure, quelque peu locale, quoique assez peu connue de ce côté-ci des Vosges, une personne qui a eu une action discrète, mais pourtant très efficace. Il s'agit en fait du pasteur luthérien Paul Brenner, qui nous a quittés il y a quelques semaines.
Et pourquoi avoir du coup choisi cet homme ?
Bien, écoute, lorsque j'ai commencé à réfléchir à une personnalité locale, je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de son œuvre au sein des communautés, des villages d'Alsace et aussi des villages autres qu'Alsace, hein, dans les Vosges et en Lorraine de manière générale. Et la deuxième raison, c'est parce que on parle au quotidien d'inquiétudes, de terrorisme, d'attentats. Et une figure de paix, ben, de temps en temps, c'est agréable à évoquer. Voilà. C'est Paul Brenner lui-même écrivait en 1985 un prélude à la paix. Je cite ces mots, il a appelé ça lui-même un prélude à la paix, tant cette image de paix lui tenait à cœur.
Il est né où, Paul Brenner ?
Alors, Paul est né en 1927 à Oberhofen-sur-Moder. Alors, c'est un petit village à proximité de Bischwiller. Bon, pour ceux qui ne voient toujours pas où est Bischwiller, on est dans le Bas-Rhin, à une trentaine de minutes environ en voiture au sud de Strasbourg.
Très bien. La mère de Paul, elle est surveillante d'asile. Alors, faut que tu nous en parles un petit peu.
Voilà. Alors, la mère de Paul Brenner est surveillante d'asile une fois que la famille a déménagé à Bischwiller, qui était distante de quelques kilomètres de Oberhofen-sur-Moder. Donc, en fait, derrière le mot surveillante d'asile, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlerait plus d'institutrice dans une école maternelle, voire même de professeur des écoles, si on veut employer la terminologie actuelle. Donc, je renvoie d'ailleurs nos auditeurs là-dessus au livre, un livre assez intéressant de Frédéric Dagez, intitulé « Les origines de l'école maternelle » à ce sujet. Donc, c'est quelque chose de tout à fait surprenant que ce métier d'institutrice en école maternelle.
Et son père, du coup ?
Alors, son père est un, je dirais pas un notable local, mais un commerçant, un homme au contact des gens, il est coiffeur. Et il a également un frère, un seul, Georges, qui deviendra instituteur, puis directeur de l'école de Bischwiller.
Depuis combien de temps la famille, du coup, est-elle alsacienne ?
Alors oui, ça c'est très intéressant pour bien comprendre la personnalité de Paul, de s'interroger sur... depuis combien de temps ils sont en Alsace ? Bien, en fait, la famille, quand on remonte un petit peu les actes d'état civil qui sont aux archives du Bas-Rhin à Strasbourg, on constate que la famille originaire de Grise, c'est un petit village à quelques kilomètres de Bischwiller, depuis des générations, et on trouve ainsi dans les actes une succession de Georges et de Michel Brenner jusqu'à la Révolution française et peut-être encore plus haut si on va voir. Voilà, donc là où j'attire quand même votre attention, et Cyrielle, tu me l'avais justement fait remarquer quand on a préparé cette émission, c'est que cette famille, elle fait partie de ces Alsaciens qui ont connu la vie française, puis la vie allemande, avec tous les tracas que l'on connaît lorsque l'Alsace devient allemande avec le traité de Francfort dans les années 1870-71. Voilà, donc pendant plus de 40 années, on a une Alsace qui devient allemande, puis à nouveau française en 1918, puis à nouveau allemande lors de la Seconde Guerre mondiale.
On peut faire un petit topo là-dessus. À ce propos, on dit souvent Alsace-Moselle ou bien Alsace-Lorraine. On dit plutôt quoi ? Qu'est-ce qui est le vrai ?
Alors, c'est une très bonne question et j'en parlais justement avec mes élèves de 3e il y a quelques jours. Disons qu'il ne faut pas rester sur le cliché, si j'ose dire, le schéma qui consiste à dire l'Alsace-Lorraine. Parce que dans nos esprits, immédiatement, vient la chanson « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Alors, je ne vais pas vous le chanter aujourd'hui, mais je pense que vous voyez.
Dommage.
Mais en fait, il s'agit d'un élément entre les deux. Pour faire simple, à cette époque, on parle bien sûr de l'annexion de l'Alsace, mais d'une Alsace qui est beaucoup plus large que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec donc bien sûr le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, mais à cette époque, le Bas-Rhin, il comprend Belfort également. Belfort ne fera pas partie, en revanche, de l'annexion. Il y a la Moselle en quasi-intégralité aussi, qui va être annexée par l'Allemagne, mais également une partie de ce qu'on appelle à l'époque la Meurthe. La Meurthe, ça deviendra la Meurthe-et-Moselle d'aujourd'hui. Et enfin, les Vosgiens le savent sans doute, un minuscule bout des Vosges qui sera donné à l'Allemagne, qui correspond à peu près aujourd'hui au canton de Salles, qui était Vosgien depuis 1790, mais qui deviendra Alsacien après la guerre. Mais ça fera, voilà, je vais sans entrer trop dans les détails, voilà ce que ça donne. Mais ça fera sans doute l'objet d'un autre épisode, d'autres 5 minutes de l'histoire.
Avec plaisir. Alors, j'aimerais savoir, Paul, comment est-ce qu'il a vécu toutes ces périodes entre France et Allemagne, sans rentrer bien sûr dans tous ces détails des malgré nous et tout ça, quoi.
Alors oui, effectivement, il ne s'agit pas ici de revisiter sous le prisme de l'Allemagne nous a blessés, ou bien on a attaqué l'Allemagne, ou autre. Non, non, pas du tout. Et ça serait contraire à l'esprit de Paul que d'aborder cette émission sous cet angle-là. Non, ce qui nous intéresse ici, c'est l'énergie qu'il va déployer à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale à œuvrer pour cette réconciliation. Pour s'imaginer un petit peu le contexte à l'époque, il faut comprendre qu'à la sortie de la guerre, dans les villes et les villages alsaciens comme Lorrain, hein, d'ailleurs, on parle souvent allemand. On a parfois plus vécu d'ailleurs en tant qu'allemand qu'en tant que français. Si on prend un exemple concret, vous prenez un homme né en Alsace ou dans une partie des Vosges en 1870, il devient allemand en 1871, en 1914, à l'âge de 44 ans, il redevient français, puis finalement il redevient allemand en 1939-1940. Voilà, vous imaginez un peu, donc pour une seule personne, on se retrouve avec un acte de naissance français, puis un acte de mariage allemand, puis etc. etc. Voilà. Je vous cite un exemple concret à ce sujet, c'est les aventures de l'inspecteur Célestin Louise, qui est un poilu. Ce sont des aventures écrites par Thierry Bourcy, ce sont des romans extrêmement intéressant. Eh bien, lorsque il aborde la question de l'Alsace et de la Moselle, il va dire que effectivement, en Moselle, on pense souvent allemand, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale. Je vous donne un exemple concret. L'évêque allemand de Metz sera prié de partir à la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'appelait Monseigneur Benzler. Donc, c'est très complexe. Mais une fois le drame de la guerre passé, il faut penser au vivre ensemble, bien sûr, et à la réconciliation.
Et à ce moment-là, il en est où, Paul ?
Alors, très bonne question. Paul, pour faire simple, je rappelle, il est né en 1927. Il vient de finir ses études au lycée d'Haguenau, puis à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Faculté, d'ailleurs, qui existe toujours aujourd'hui. Je suis allé la visiter il y a quelques mois de ça. Donc, après un bref passage par Metz, en tant que pasteur adjoint, si j'ose dire, on parlerait plus de vicaire, il est en charge de plusieurs paroisses. On le voit à Metz, bien sûr, en tant que vicaire du pasteur Griesbeck, qui est une figure locale très connue, mais également au service des forces armées et enfin sur la paroisse protestante de Colmar. Mais son premier vrai poste, hein, c'est celui de Gödertheim, une commune qui est au nord de Strasbourg, où il va prendre son premier poste définitif entre 1953 et 1959.
Et comment se passe cette première affectation dans un village, comment dirait-on, franco-allemand ?
Oui, effectivement, tu as raison Cyril, là-dessus, on peut parler de village franco-allemand. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que le poste de pasteur, à ce moment-là, il est très complexe. C'est une ville où on n'a pas oublié la guerre, même si on est déjà en 1953-54, etc. Les témoignages écrits que j'ai pu lire ont parlé, je cite, de division dans le village, entre plusieurs villageois au sujet de la guerre. Il y a ceux qui se sentaient plus allemands, ceux qui se sentaient plus français, et on peut légitimement le comprendre. Donc les dénonciations, bien sûr, vont bon train, parfois, parce qu'on n'oublie pas facilement, quand on a souffert. Eh bien, nous avons ici le premier travail de Paul Brenner. Il se met aussitôt à la tâche, il reconstruit au sens propre la paroisse, avec un foyer et un cinéma paroissial. Pour rappel, il a 26 ans à cette époque, en 1953. Et bien c'est ça peut-être sa force, c'est qu'il comprend très vite que les jeunes, ils sont l'espoir d'une reconstruction, d'une force, et que si on intéresse la jeunesse, si on intéresse la nouvelle génération, et bien au travers de ces nouveaux éléments culturels, il y a peut-être quelque chose à faire pour la réconciliation.
Alors c'est assez unique ce cinéma, comment réunir deux factions d'un même village ?
Voilà, alors c'est effectivement aussi là un point très intéressant, et c'est là où Paul va agir avec un coup de maître, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va diffuser des films, à cette époque, hein, vous imaginez un pasteur diffuser des films, mais des films allemands et français, c'est ça qui est très fort. Et je précise, tous ces films sont bien sûr autorisés par ce qu'on appelait à l'époque le Centre Cinématographique de Paris. J'attire également votre attention sur un point que l'on n'en a pas précisé de prime abord. C'est qu'il ne faut pas faire de ce pasteur un espèce de parachuté, comme on voit un petit peu nos politiques aujourd'hui, qui ne connaît pas du tout les souffrances passées, qui ne connaît pas l'Alsace, pas du tout. Il a lui-même vécu la difficulté d'un double héritage franco-allemand, et il a vu son père partir en camp de concentration dans la ville de Gaggenau, Le camp lui-même n'existe plus. Pour faire simple, c'est une annexe du camp de Schirmeck.
Et au final, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a fonctionné?
Alors non, le cinéma n'a pas fonctionné, on va pas se mentir. Cette réconciliation a été jugée trop rapide par certains. Et malgré un élan enthousiaste de la part d'une grande partie de la population, il a dû quitter son poste suite à une pétition à Gödertheim avec sa première fille, Anne, et sa femme qui était enceinte du deuxième enfant.
On est de retour sur les ondes de notre radio locale et on continue l'histoire. Donc on fait un petit topo, on parle de Paul Brenner. Tu nous en parles un petit peu avant qu'on continue ?
Oui, tout à fait. C'est donc Paul Brenner était un pasteur qui est mort il y a quelque temps, qui a vécu en Alsace pendant tout le XXe siècle, pour faire simple, et qui a essayé d'œuvrer pour la paix, pour la réconciliation franco-allemande et puis pour la réconciliation entre Alsaciens et Lorrain de manière générale, à tradition allemande ou à tradition française.
Donc là, on était arrivé au fait qu'il a passé des films allemands et français dans un village pour essayer un peu de réunir les deux civilisations, quoi.
Tout à fait, voilà. Donc c'était une idée très intéressante à Gödertheim de recréer le cinéma paroissial et de le reconstruire littéralement, dans le sens où il n'y avait plus une brique sur une brique. Hein. Il a vraiment dépensé même de ses finances personnelles pour recréer une dynamique, une activité, et puis aussi pour ne pas tomber dans ce cliché de « on oublie, on gomme tout », alors qu'au contraire, il faut peut-être en parler et assumer cet héritage.
Il a dû quitter son poste. Comment vit-on lorsqu'on est obligé de quitter son poste alors qu'on pensait vraiment bien faire, alors qu'il s'est investi ?
Oui, ça a été une grande douleur, on imagine. Paul est âgé d'une petite trentaine d'années et c'est très délicat. On est dans une France des années 50, 60, qui évolue doucement. Et dans ce contexte-là, il ne faut plus trop parler du passé. Paul se sentira même obligé de partir après un bref temps, après une brève mutation à Berg, en Alsace-Beau-Sud. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que c'est une superbe commune dont je vous recommande la visite. C'est très très sympathique pour les randonneurs notamment. Donc Paul y séjournera pendant quelques années, puis ensuite il partira vers la Suisse en 1964 jusqu'à la fin 79, pour faire simple.
Et quelle mission l'attend alors là-bas ?
Alors, on va faire un petit saut dans le temps, hein, à partir de 1979. Je parle pas trop de la Suisse, juste pour information, toujours sur ce double héritage franco-allemand. Il faut savoir que la paroisse où il était en Suisse était une paroisse de langue allemande, donc il maîtrisait parfaitement cette langue-là. Mais faisons un saut, donc directement en 1979. Là, effectivement, il y a une tâche conséquente qui l'attend. On parle plus trop de réconciliation entre Alsaciens, mais en revanche, le monde évolue à une vitesse folle. Nous sommes à l'approche de la chute du mur de Berlin en 89, les mentalités évoluent, le monde évolue, mais c'est aussi une période de troubles au Proche-Orient.
Et quel rapport du coup avec un pastorat en Alsace où Paul est nommé en 79-80 à Frischhausen, cette commune à proximité de Saverne ou Domfessel qui est au nord de Strasbourg ?
Alors, précision, il est nommé à Frischhausen en 79.
J'ai bien prononcé ?
Oui, c'est bien. Ou si jamais c'est pas le cas, nos amis alsaciens te le pardonneront. Et il est nommé en 88 à Domfessel. Alors le rapport, quel est le rapport effectivement entre un petit pasteur d'une petite commune et le monde ? Eh bien le rapport c'est que Paul avait très vite compris que l'on vit dans un temps qui est hyper connecté. Les informations nous parviennent au quotidien. Alors, je n'ai pas besoin de vous décrire la journée type connectée d'un adolescent d'aujourd'hui qui est branché sur les réseaux sociaux. Mais voilà, qu'il s'agisse d'une guerre, d'un attentat, etc., on est hyper connecté. Eh bien, s'intéresser au monde, se sentir connecté, pour Paul, c'était très important, mais il fallait également conserver son identité. Et pour lui, l'identité, ça passe en 1985 par l'idée de lancer, ou plutôt de relancer, le principe des fêtes traditionnelles de village à Frischhausen. Ça n'existait plus, c'est lui qui va relancer ce principe de défilé de chars fleuris, accompagné de ce qu'on appellera à l'époque un temps œcuménique. Les habitants étaient invités à se rassembler autour de, je vous cite le document, autour de représentants de peuples et de nations touchées. Ça nous semble aujourd'hui très actuel encore, puisque furent invités en 1985 des Israéliens, des Cambodgiens, des Afghans, des Européens, pour ce que Paul appelait des signes de paix et de réconciliation, ainsi que d'amitié.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de cette fête traditionnelle ?
Oui, alors le programme de cette fête, j'ai eu le programme sous les yeux, il y avait un article des dernières nouvelles d'Alsace là-dessus. Pour faire simple, on note la présence de chars qui ont pour thème, je liste les thèmes, hein, réconciliation franco-allemande, on y revient toujours, mais aussi Alsace, cœur vivant de l'Europe, ou bien embellissons la terre. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on traduisait ça avec des mots d'aujourd'hui, eh bien on dirait l'Union européenne, ou bien l'environnement, ou bien encore la réconciliation entre la France et l'Allemagne.
Et comment ça se finit ?
Eh bien, ça se finit, si j'ose dire, dans la paix. Dans une paix toute relative, mais ces soucis rencontrés dans les années 50 à Gödertheim ont été oubliés. Mieux encore, d'ailleurs, son action du cinéma est aujourd'hui saluée. Je lisais à cet effet un article des dernières nouvelles d'Alsace en décembre 2016 qui le remercie à ce propos pour sa tâche. En revanche, pour ce qui est de sa vie personnelle, Paul quittera le ministère paroissial de Domfessel en 1994. Il avait commencé en 1953, il finira en 1994. Il lui reste alors une dernière tâche, qui n'est pas des moindres, à laquelle il va s'employer avec beaucoup d'ardeur, c'était la réconciliation dans sa propre famille.
Alors, cette réconciliation dans sa famille, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Mais sans aller trop loin, bien sûr, on ne veut pas...
Oui, bien sûr, oui. Mais sans rentrer dans des détails qui vont relever plutôt de l'intimité hein, familiale de Paul, disons pour faire simple que cette mutation forcée, parce qu'il y a vraiment eu une mutation forcée, hein, dans les années 60 de Gödertheim, fut très mal vécue dans sa famille, dans son foyer, et a laissé des fractures assez douloureuses. Il a, dans les années 80-90, installé la paix, la sérénité dans sa famille, dans une famille où l'on ne se parlait pas assez. Bon, il faut avouer quand même qu'il essuiera des échecs, mais l'essentiel pour lui, je pense, était de tenter une œuvre de paix et de tenter ce à quoi il aspirait et ce qu'il espérait.
On fait un petit saut dans le temps, on arrive à 2017.
Oui, 2017. En mai dernier, Paul Brenner nous a malheureusement quittés, il s'est éteint, après une maladie assez difficile qui l'a paralysé pendant environ les deux dernières années de sa vie. Alors j'attire votre attention sur le fait que les gens qui se souvenaient de lui m'ont parlé à son enterrement des fêtes du village de Furchhausen, qui ont toujours lieu. Je me souviens même d'une dame qui disait qu'elle trouvait ça, elle trouvait que c'était les plus belles fêtes de village qu'elle avait connues jusqu'à présent. Paul a choisi de reposer à même la terre dans un bel écrin de verdure, il faut le reconnaître, un écrin paisible, à Berg, en Alsace-Bossue. C'est la commune dont je vous avais parlé précédemment. Il avait pour ainsi dire commencé là, au sein d'un temple qui est vraiment très beau, très beau. Un temple protestant caractéristique avec un beau clocher à bulbe. Et ce cimetière où il a choisi de reposer est un cimetière qu'on voit un petit peu comme dans les séries américaines. C'est un cimetière rempli de verdure où les tombes se mêlent à l'herbe. C'est très joli, c'est très beau. C'est vraiment comme dans les séries américaines. C'en est d'ailleurs d'autant plus étonnant que lorsqu'on regarde depuis sa tombe, on voit l'herbe, on voit le mur de grès du cimetière et puis on voit la vallée qui descend avec les champs. C'est extrêmement joli.
Si tu as un petit mot pour la fin ?
Oui, bien sûr. Alors je finirai ces 5 minutes qui, comme vous le voyez, n'ont pas été que 5 minutes avec toi, Cyrielle, en évoquant, dans une sorte d'hommage, si j'ose dire, ce qu'il écrivait dans toutes ses lettres. Il écrivait dans toutes ses lettres à sa famille, comme à ses paroissiens, à ses enfants, comme à ses petits-enfants, un petit mot de fin que je vais vous lire. Il disait toujours « Que Dieu te garde et qu'il conserve en paix ta famille. » Alors, que l'on soit croyant ou non, je pense que ces mots résonnent comme un bien pour notre temps, comme un souhait de bonheur, un souhait de paix et d'espérance, qui sont partagés, je pense, par tous, et on peut qu'y être sensible. Donc j'aurais envie de dire merci et au revoir, Paul.
Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition, la deuxième édition des 5 minutes d'histoire. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire de quoi il va en retourner ?
Oui, alors sans trahir de grands secrets, justement, c'est l'occasion de le dire, nous allons parler franc-maçonnerie, ésotérisme, Illuminati et tous ces complots faciles qui, comme on dit, vous permettent de briller en société.
Très bien, merci. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. J'en profite pour vous signaler, si vous avez des questions, des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part.
Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier.